Un festival extra de la poésie hors du livre et une journée entière pour le poète américain John Giorno avec Abigail Lang, Jean-Jacques Lebel et Jean-Max Collard.
Compagnie des poètes, par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h.
C'était un type qui savait que, comme notre génération, il fallait mettre la poésie debout, qu'il fallait la sortir du livre, que pour que la poésie soit et existe, elle ne pouvait pas se cantonner au livre, que le livre c'est formidable quand on est mort, mais quand on est vivant, ça reste un détritus et une ordure, et qu'il fallait absolument que la poésie existe en chair et en os. C'est-à-dire comment elle est articulée, comment elle est prononcée, comment elle est gesticulée, comment elle vit. Pour montrer comment elle vit, il faut que le poète fasse son travail jusqu'au bout. Une fois qu'il a écrit le poème, ben c'est pas fini. Pour que le poème soit fini, il faut qu'il le dise.
Bonjour à toutes et à tous. L'actualité des poésies aujourd'hui, c'est un festival de littérature affranchi du livre au Centre Georges Pompidou. Le livre, c'est formidable quand on est mort, nous dit le poète Julien Blaine dans le film de Virginie Linhart, Je me souviens de John, dont on vient d'entendre un court extrait. Avant de se souvenir de John Giorno, puisque c'est lui qu'il va être question, et d'une poésie qui aura travaillé à sortir précisément la poésie du livre à la conquête des masses et à la reconquête d'une forme de spiritualité, un mot peut-être sur cette déclaration, Jean-Jacques Lebel, l'idée qu'une fois que le poème est fini, c'est pas fini et que le poète doit aller jusqu'au bout et finir le travail.
C'est-à-dire que le livre sera toujours irremplaçable comme outil cognitif pour rentrer dans le texte et dans l'intelligence du texte. Mais John Giorno est de ceux qui, après les futuristes et les dadaïstes, ont donné du corps, du vrai corps vital, de l'élan vital au texte et surtout du souffle.
Le livre, c'est formidable quand on est mort, Jean-Max Collard. J'imagine que le Festival Extra n'a aucun compte à régler avec le livre.
Ah, pas du tout. D'ailleurs, au début, on l'appelait le Festival de l'éditeur hors du livre. Et puis certains pensaient que du coup, c'était un festival contre le livre. Et du coup, aujourd'hui, on l'appelle plutôt un festival de la littérature vivante pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Évidemment, il s'agit d'être avec le livre, mais aussi au-delà du livre. Et comme le dit Jean-Jacques, il y a cette vie qui se développe au-delà du livre. Moi, au fond, j'estime que le Festival Extra, c'est même un festival de la vie littéraire. De la vie littéraire dans toutes ses formes, c'est-à-dire les conversations, la réception, et puis aussi la performance, la lecture, et les poèmes visuels, et quand la littérature monte sur scène, quand elle va sur les murs, quand elle gagne le monde des écrans, et aujourd'hui c'est évidemment très présent, ce sont toutes ces manifestations littéraires. Parce qu'au fond, souvent, la littérature est un peu trop systématiquement identifiée au livre. Et c'est une histoire assez courte, au fond, même dans l'histoire de la littérature. Et la littérature a eu quantité de manière de vivre à l'Antiquité et à d'autres âges. Donc l'idée de rappeler tout simplement que le livre n'est pas le seul organe littéraire, qu'au fond il y a quantité d'autres manières de faire de la création littéraire ou de la création poétique aujourd'hui, c'est ça le sens du Festival Extra.
Alors ça n'est pas tout à fait nouveau. J'imagine que si le festival... Alors le Festival Extra, il faut peut-être le rappeler, a démarré en 2017, oui. Sous votre impulsion. Est-ce qu'il prenait acte à ce moment-là de quelque chose en particulier?
Oui, moi, depuis le début, quand j'ai fait la proposition au Centre Pompidou de faire ce festival, c'était deux choses. D'une part, la littérature avait un peu disparu du la programmation dite du centre. Il y a évidemment la bibliothèque publique d'information, la BPI au centre. Mais donc, les grandes expositions littéraires qu'on avait connues, Barthes, Beckett ou Cocteau, cet âge était passé. Et au fond, faire revenir la littérature dans le programme du centre, ça pouvait pas être non plus d'organiser un salon du livre traditionnel où il fallait engager, je dirais, la marque ou l'esprit du Centre Pompidou, c'est-à-dire, moi, ce que j'appelle la dimension plasticienne de la littérature. Il fallait que la littérature puisse évidemment se porter aussi sur les murs, se donner sur scène. Et évidemment, ça n'est pas nouveau, mais au fond, c'est un rappel incessant. Et ceux qui ont été les pionniers de cette histoire savent qu'on l'a entendu avec la voix de Julien Blaine tout à l'heure. C'était un combat. C'était un combat pour la poésie du mot. Mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, ce combat, d'une certaine manière, est gagné. Parce que le moindre auteur qui publie un livre, y compris pas seulement de la poésie, mais aussi un roman, on lui demande d'aller rencontrer les lecteurs. On lui demande d'aller sur scène. On lui demande d'aller à la librairie. Donc le livre est très important. Mais au fond, aujourd'hui, il n'est pas suffisant. Il faut que l'auteur l'accompagne dans sa circulation. C'est-à-dire l'idée d'envoyer comme ça un livre dans l'espace public. Eh bien, à cet âge-là est plus difficile pour le livre. Donc du coup, on est dans un autre moment de la configuration, de la reconfiguration de la vie littéraire.
Ça peut poser question aussi, Jean-Marc Scolaire, le fait qu'il y ait cette injonction pour l'écrivain aujourd'hui à devoir faire corps, à devoir...
Mais bien sûr, certains le vivent mal, parce qu'au fond, ils se disent, mais c'est pas le métier de l'écrivain que d'être aussi, de monter aussi sur scène.
Ils se cachent derrière l'écriture, en quelque sorte.
Voilà, certains le disent, mais d'autres, en revanche, en font vraiment un lieu de créativité. C'est-à-dire, transforment cette contrainte donnée aujourd'hui par l'économie du livre pour en faire, eh bien, autre chose. Et évidemment, c'est cette partie-là qui nous intéresse. C'est la partie créative de toute cette autre manière de faire de la littérature. Quand on prend une autrice comme Olivia Rosenthal, elle publie des livres et puis en même temps elle crée de la littérature pour des pièces sonores qu'elle ne publie pas par ailleurs. Donc aujourd'hui, cette idée d'avoir, comme c'était avant le cas du poète Bernardi qui vraiment était, ou de la figure de poétesse qui s'appelle Michel Métal, qui étaient des gens qui faisaient des publications orales, c'est-à-dire qui vraiment rechignaient en quelque sorte à la publication écrite. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce moment-là, mais un auteur peut très bien écrire pour le livre, il va écrire aussi pour la scène, il va écrire, comme l'a fait Duras, pour le film, et peut aussi écrire pour le son, sans que ça revienne forcément vers le livre.
Alors justement, on disait que ça n'était pas nouveau, hein, ces formes-là que vous explorez dans le Festival Extra. Je pense notamment au Festival Polyphonix, qui avait été créé sous votre impulsion, Jean-Jacques Lebel, à la fin des années 70, et qui va d'ailleurs permettre à des gens, justement, comme Julien Blaine et John Giorno, de se rencontrer. Je crois même que c'est dans ce cadre-là qu'ils se sont rencontrés pour la première fois. Est-ce que c'est un festival qui a pu faire modèle pour vous, Jean-Marc Scolaire, justement, en
imaginant
Extra?
Évidemment. Moi, dès que j'ai rencontré Jean-Jacques Lebel il y a quelques années, on a tout de suite parlé de Polyphonix. Et je dois dire que, même au-delà, d'abord Polyphonix c'était, et Jean-Jacques le dira mieux que moi, c'était justement la rencontre, le mélange d'art, la dimension performée, la dimension
du vivante,
corps. Du corps physique, oui. Et puis la revendication. Voilà, c'était aussi des soirées manifestes d'une certaine manière. Et puis, il faut dire aussi que au-delà même de Polyphonix, le Centre Pompidou, au moment de son ouverture, et pendant les premières années de ce qu'on appelait les revues parlées, eh bien, ça a été un vrai foyer de la poésie expérimentale, de la poésie sonore. Toutes les semaines, il y avait deux lectures à 18h et à 20h au Centre Pompidou. On a un trésor d'archives sonores au Centre Pompidou que certains universitaires comme Abigail Lang sont très désireux d'explorer. Et voilà. Et donc, l'idée, c'est de retrouver ce foyer, de faire en sorte que le Centre Pompidou puisse être à nouveau un lieu d'accueil et de porte-voix pour la création poétique aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'il s'agissait d'ailleurs de défendre ou peut-être même de contrer, Jean-Jacques Lebel, avec ce festival-là, avec Polyphonix? Est-ce que, alors, vous parliez de corps, mais est-ce qu'il s'agissait aussi d'une nouvelle relation au public, hein?
Oui, il s'agissait de contourner l'industrie culturelle et de faire des relations directes, ça s'appelait la poésie directe, hein, puissent s'établir et se développer entre les locuteurs, les locutrices et les émetteurs, les émettrices et les récepteurs et les réceptrices. C'est-à-dire qu'il y ait une relation immédiate, directe, entre la personne qui dit, qui chante, hein, la manière des anciens Grecs, hein, les poètes grecs classiques ne parlaient pas leurs poèmes, ils les chantaient, faut pas oublier ça. Et dans d'autres civilisations, évidemment, que ce soit la civilisation chinoise ou les civilisations africaines, la parole était toujours chantée, voire dansée. Donc, il fait en effet renouer, à travers Polyphonix et plein d'autres initiatives du même genre, des initiatives mondiales, hein, qui abolissent toutes les frontières entre les langues. Il faut que les poètes s'expriment dans leur langue, pas forcément en traduction, parce que la vibration de la voix, le ton, l'émotion, la danse des mots, la magie du verbe ne peut pas être traduite. Et donc, si vous écoutez Billie Holiday, même si vous ne comprenez pas un mot de ce qu'elle dit, vous entendez parfaitement le sens de sa magie, n'est-ce pas? Eh bien, pour la poésie, c'est pareil. Et ça ne passe pas dans un livre. Ça ne passe pas du tout dans un livre. Donc, il ne s'agit pas du tout d'abolir les livres, ni les revues, ni le texte écrit, mais en plus de proposer des expériences sensorielles. Et si les murs ont des oreilles et de la mémoire, ils se souviendront évidemment de Blaise Gauthier, le merveilleux bonhomme qui nous a permis pendant 30 ans au Centre Pompidou d'inviter tous les poètes et toutes les poétesses qui passaient par Paris, de leur donner un lieu où se faire entendre. Et je crois que ce que fait Jean-Max, c'est en effet renouer avec ça, cette revue parlée permanente en quelque sorte.
Alors s'il s'agissait pour tous ces poètes-là de se faire entendre, il s'agissait aussi pour un public peut-être nouveau, peut-être différent, d'entendre ces poètes aussi. Qu'est-ce que vous diriez du public de 2020, Jean-Jacques Lebel, par rapport à celui que vous avez
que
pu connaître? Qu'est-ce que vous diriez de ce public-là par rapport au public que vous avez pu voir à la fin des années 70, par exemple, au démarrage du festival Polyphonix? Qu'est-ce que c'était que ce public qui venait voir les poètes et qu'est-ce que ça serait
que
ce public de
réponds franchement, je n'en sais strictement rien. On ne sait pas qui est dans le public. N'est-ce pas le public
mais son décor aussi ce public là donc c'est aussi ils agissent de manière différente
S'adresse à lui à ce grand public là par des voies nouvelles hein que sont les réseaux sociaux aujourd'hui, ça va drainer un tas de gens qui en effet ne sont jamais rentrés dans une librairie ou dans une bibliothèque. Donc c'est un public complètement nouveau et on ne sait pas de quoi il est fait. On n'a aucune idée. On peut pas faire des enquêtes sur ce public là pense. On a une petite idée. Mais c'est le public de France Culture. Vous savez, il y a les gens qui sont des diplômés qui écoutent France Culture, mais il y a aussi des gens qui écoutent dans un taxi ou dans le métro. Vous ne pouvez pas savoir qui c'est. Et c'est ça qui est merveilleux. Vous ne connaissez pas l'identité des gens qui vous écoutent. Et c'est une aventure très casse-gueule, mais très excitante aussi.
Alors, on va faire un tout petit peu de sociologie quand même. Si on prend l'exemple très concret de Dial a Poem, qui est un projet mené par le poète John Giorno, d'abord en 68, hein, qui était donc un service téléphonique qui permettait l'écoute aléatoire de poèmes. Il y avait aussi des discours politiques, il y avait aussi des chansons, il y avait des œuvres sonores lues justement par leurs auteurs, comme vous disiez, Jean-Jacques Lebel. À l'époque, le dispositif avait touché des centaines de milliers de personnes. Je ne sais pas si ça a été chiffré, hein, Abigail Lang, peut-être que vous en savez quelque chose. En tout cas, avait largement touché. Il a été réactivé au Palais de Tokyo pour l'exposition I Love John Giorno signée Hugo Rondinone, c'était en 2015, je crois. Et puis aujourd'hui, par la Fondation Louis Vuitton. Qu'est-ce qui est devenu cette pièce avec le temps? Est-ce que c'est aujourd'hui, Abigail Lang, est-ce que c'est une archive d'archives?
Moi je trouve que ça fonctionne encore terriblement bien. Moi j'ai appelé cette semaine plusieurs fois et ça, sur moi, ça fonctionne extrêmement bien. C'est-à-dire que ça crée un sentiment d'intimité insensé. On a l'impression que le poète est là, il parle pour vous. C'est une espèce de lecture de poésie. One-on-one, c'est-à-dire voilà lui et vous le récepteur comme disait Jean-Jacques et c'est très puissant comme expérience il me semble toujours.
Alors c'est lui et vous
direct, hein, direct. Il n'y a pas d'intermédiaire.
Oui.
C'est ça qui est important.
On va essayer de vérifier ça. On va essayer de vérifier ça tout de suite. Alors, je rappelle d'ailleurs pour les auditeurs, le numéro à disposition, c'est le 0805 50 23 15. Je ne dis pas de bêtises.
Oui, tout à fait. Qui a été activé pour le John Giorno Poetry Day. Oui.
Voilà. Alors, on écoute ça tout de suite.
Rappers, gunk into gunk, slipshod. As like you see the other end, my friend, what jealousy, what qualm, dumb like any stranger, made you like that? A circle of worries? Is that all you've got to say or show for your money? Bright as this light is, and easy for a moth, and I would like to touch that man. Bill Berkson.
Alors, merci. Alors, comme on a un peu parlé dessus sur le début, normalement au début on vous dit quand même ce que vous entendez.
On entend la voix de John qui dit le nom du poète. Et voilà. Et voilà, en effet.
Alors, là, je ne suis pas sûre d'avoir identifié ce
Bill Berkson.
Merci Abigail Lang. À l'époque, en 68, on pouvait aussi bien tomber, par exemple, sur le mode d'emploi d'un cocktail Molotov, sur John Ashbery.
C'est un des primats qui expliquait comment fabriquer et lancer un cocktail Molotov, ce qui est un poème extrêmement pratique et utile, y compris aujourd'hui, ici à Paris, n'est-ce pas ?
Sur lequel on
avec
peut toujours tomber là ?
Avec les gilets jaunes, ça peut servir.
Moi, je suis tombée, le premier quand j'ai appelé cette semaine, le premier sur lequel je suis tombée, c'est Dan de Prima qui explique comment... faire des réserves de riz, de haricots, en cas de révolution, parce que ça vient de ces revolutionary letters, et donc stocker de l'eau, de l'huile, et voilà, pour tenir.
Alors avec, très végétarien, quoi.
Avec le temps, hein, en fonction du lieu d'exposition ou d'activation, la liste avait été un peu modifiée aussi, hein, parfois.
Disons que la collection, parce qu'au fond, derrière le poème, maintenant, c'est presque une collection incroyable d'une soixantaine de voix, notamment de poésie, notamment anglophone. Mais c'est vrai que cette collection, elle s'est augmentée au fur et à mesure. Certains musées aussi ont commissionné de nouveaux poètes. Ça a été le cas aussi par exemple à Genève. Donc, c'est une collection qui s'est en effet augmentée par rapport au premier groupe, qui était déjà très conséquent et qui est un vrai paysage, en quelque sorte, de la poésie notamment américaine, à la fin des années...
Et très variée, n'est-ce pas ? Il y avait des poètes et des poétesses de toutes les formes de poésie pensables. C'était pas un courant, c'était tous les courants. Ça, c'est John. C'était un anthologiste de la pensée poétique de son époque.
Alors, c'était aussi travailler une stratégie de diffusion, à l'époque, en tout cas, en 68. Et c'est vrai que ça n'est pas diffusé de la même manière. Alors, j'entends bien que évidemment, ça marche, on vient de le vérifier. C'est formidable de pouvoir tomber dessus, mais j'imagine que ça va toucher beaucoup moins de gens que ce que ça touchait avant. Le fait que ce soit rentré dans une collection, parce que la Fondation Louis Vuitton en a fait l'acquisition, je suppose.
Le Centre Pompidou, le Musée National d'Art Moderne possède aussi cette collection, en effet. Et le MoMA, puisque le MoMA était un des lieux qui l'avait activé, le Musée de New York l'avait activé et l'a retiré à cause, justement, des Revolutionary Letters, et ça a évidemment provoqué un scandale. Mais en plus, on a près de 1 million, il y a 1 400 000 appels quand c'est mis en ligne dans les années 69-70. Enfin, c'est quand même assez étonnant, évidemment.
Ça veut dire que pour vous, les enjeux sont les mêmes aujourd'hui que ce que ça pouvait être à l'époque où John Jornou l'a pensé ?
Non, je crois pas. Je crois que vraiment, la première idée, c'était quand même aussi d'aller justement infiltrer des médias, des systèmes, puisqu'en fond, le nom que Jornou va donner après à son label, c'est le Jornou Poetry System. Donc au fond, c'était l'idée d'infiltrer les systèmes, système des médias, système des institutions, etc., et de proposer, comme un détournement au fond, de proposer ce détournement pour créer un standard téléphonique poétique. Mais c'est aussi, moi c'est ça que je trouve remarquable, une sorte de foi en la poésie, dans sa capacité justement à toucher des publics larges, à se porter au-delà de ces frontières souvent conventionnées. Je dis pas du tout naturelles, parce que moi je crois au contraire que la poésie n'a pas de frontières naturelles. Mais par contre, voilà, on établit des conventions, on établit des frontières qui font que ça limite le champ poétique. Et que Jornou a été de ceux, et ils ont été plusieurs, de ceux qui ont ouvert, en quelque sorte, réouvert, parce qu'il faut cesser de réouvrir, en quelque sorte, le champ des frontières.
Oui, aujourd'hui, on a plein de Insta-poets, des poètes sur Instagram, sur Twitter. Les étudiants, ils découvrent d'abord, très souvent d'abord la poésie par ces canaux-là. Et ils commencent à travailler sur ces objets-là. Donc, je ne sais pas si c'est la question que vous posiez à Jean-Jacques, le public de 2020, les jeunes générations, pour elles, la poésie, elle peut être d'emblée sonore, audiovisuelle, elle passe par tous les médias. Le livre inclus, mais c'est pas forcément d'abord le livre.
C'est pour ça que je dis que ce qui était un combat d'avant-garde et ce qui était un vrai combat, quelque part aujourd'hui est gagné. Et il y a quelques années, John Jornou avait dit « on vit un âge d'or de la poésie ». Ce qui était quand même un peu étonnant, parce qu'aujourd'hui on voit bien que, même s'il y a des éditeurs qui font un travail formidable, et bientôt il y aura le marché de la poésie à Paris, mais qui font un travail formidable, en même temps la poésie n'a pas un gros poids économique dans le monde du livre, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour autant,
mais tant mieux peut-être.
Alors bon, ça c'est encore une autre question. Mais pour autant, on peut dire avec John Jornou qu'il y a un âge d'or de la poésie, parce qu'effectivement, la poésie se diffuse de manière très différente. Elle peut se diffuser à travers le monde des écrans et des réseaux sociaux. Le slam, dont John Jornou est un des pionniers d'une certaine manière. Enfin, il donne des formes qui font que. Et d'ailleurs, dans le John Jornou Poetry Day, on aura le slammeur Maras à Bordeaux demain. Donc ça fait partie aussi des formes. Du côté de la chanson, il se passe aussi beaucoup de choses. Enfin, il y a quantité de manières aujourd'hui, effectivement, aussi, de faire de la création poétique. Ça s'est redistribué. Et moi, ce que je vois aussi, c'est que dans le champ de l'art contemporain, il y a une présence de la poésie qui est beaucoup plus importante, au fond, que sa propre présence dans la reconnaissance du champ littéraire, par exemple.
Alors, pour entendre la voix de John Giorno, va falloir patienter encore un petit peu, parce que, alors, on va écouter un poème de John Giorno, mais exceptionnellement, ce qui est assez rare, hein, parce que c'est assez rare que ces poèmes ne soient pas dits par lui, mais là, en tout cas, ils sont nombreux et ils ne comptent pas parmi eux.
Seven Cuban army officers in exile were at me all night, tall, sleek, slender Spanish types with smooth dark hair, muscular bodies and hair like wet coal on their heads and between their legs. I lost count of the times I was fucked by them in every conceivable position. At one point they stood around me in a circle and I had to crawl from one crotch to another, sucking on each cock until it was hard. When I got all seven up, I shivered looking up at those erect pricks, all different lengths and widths, and knowing each one was going up my asshole. Every one of them came at least twice, and sometimes three times. Once they put me on the bed, kneeling. One fucked me in the behind, another in the mouth, while I jacked off one with each hand, and two of the others rubbed their pricks on my bare feet, waiting their turns to get into my can. Just when I thought they were all spent, two of them got together and fucked me at once. The positions we were in were crazy, but with two big fat Cuban cocks up my ass at one time, I was in paradise.
Seven Cuban army officers in exile were at me all night. Tall, sleek, slender Spanish types with smooth, dark, muscular bodies and hair like wet coal on their heads and between their legs.
Alors, ce qu'on entend, c'est pornographique poème de John Giorno. Alors, je devrais plutôt même dire un enregistrement de pornographique poème de John Giorno lu, répété par 12 personnes les unes à la suite des autres, hommes ou femmes, hein, comme on vient de l'entendre, dont Robert Rauschenberg, dont Yvonne Rainer, dont Patty Oldenburg. Hein, ils sont 12 à dire ce poème. On est au milieu des années 60, c'est vous qui l'avez choisi, Abigail Lang. Alors l'heure de diffusion me décourage un petit peu de donner la traduction en français. C'est cru, c'est très cru, hein, c'est vraiment une description frontale, graphique même, pourrait-on dire, d'une scène de sexe. Choisir le registre de la pornographie dans ces années-là, donc on est 65, 67, hein, John Giorno est jeune poète, en tout cas choisir ce registre-là, avec ces voix-là, est-ce que c'est un choix politique, Jean-Jacques Lebel
pour... à mon sens, oui. Après tout, il a toujours, toute sa vie, lutté pour les droits des homosexuels, hein, d'une façon très claire, nette et précise. Il s'est engagé dans la lutte contre... l'épidémie du sida, il a été très 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 contre toutes les guerres, y compris la guerre du Vietnam. Il était à Chicago en 68 dans la fameuse grande manifestation, mais c'était pas un propagandiste, hein, c'est un poète toujours, un visionnaire. Il utilisait la magie du verbe, hein, il faisait pas de la propagande. Il faut pas oublier non plus que c'était finalement, comme beaucoup d'autres Américains et Américaines, un bouddhiste pratiquant. Ouais, c'est très important, ça. N'est-ce pas? Un bouddhiste tibétain. Et
très tôt, hein?
Pardon?
Très tôt dans son parcours.
Oui, il faisait pas du racolage, hein, c'était pas un religieux qui faisait pas du Hare Krishna dans la rue, hein, mais il était bouddhiste et dans sa maison, sa fameuse demeure sur la Bowery où William Burroughs a vécu pendant longtemps. Après la mort de Boros, ça a été transformé en lieu de prière et de chant tibétain, n'est-ce pas? Et encore aujourd'hui, je crois que c'est resté intact. Il y a un hôtel tibétain, et les moines tibétains de Boulder et d'ailleurs viennent y pratiquer leur rituel. Donc, Giorno, comme pour tous les bouddhistes, le sexe n'est pas une chose taboue, hein. C'est pas des cadeaux. C'est pas des cadeaux cathos, les bouddhistes. C'est des bouddhistes. Et pour les bouddhistes, tout ce qui relève du sensuel fait partie du mental. Il n'y a pas de frontière, justement, entre les deux. Et John était l'incarnation vivante de cette façon de vivre, de sentir et de produire de la poésie.
Avec Gaël Lang, le recours à la pornographie, qu'est-ce que ça lui permettait de...
C'est aussi une réaction à l'époque. Il a été l'amant de Warhol, de Rauschenberg. Il est l'amant de Rauschenberg, il sera l'amant de Jones, donc cet immense peintre homosexuel, mais qui ne font aucune allusion homosexuelle dans leur peinture, parce qu'ils savent que ça leur coûterait leur carrière. L'école de New York, le mouvement d'expressionnisme abstrait, est décrit comme, par Giorno comme étant quand même profondément homophobe. Enfin, c'est ce qu'il dit dans ses mémoires qui ont paru cet été... Great Demon Kings, où il relate en fait son parcours, beaucoup à partir de ses rencontres, et donc ces rencontres déterminantes qui sont des grands démons, et donc voilà, le premier étant Warhol, et puis Rauschenberg. Et donc, c'est aussi, il se distingue de ça, enfin, c'est une chose qui l'agace, et donc il écrit ce poème, et il réussit à le faire lire par tous ces gens qui sont, alors ces amis peintres, artistes, chorégraphes, qui ne sont pas tous encore très connus, mais qui vont le devenir, et notamment Rauschenberg, qui accepte de le lire. Et Giorno dit que la voix de Bob était incroyablement sensuelle, sointant de sexualité et de plaisir. Et c'est une chose qui, donc c'est une victoire pour lui, c'est une chose que Rauschenberg n'aurait jamais pu dire, ça lui aurait coûté sa carrière. Et c'est aussi un geste politique, c'est-à-dire c'est une lutte pour le droit pour le droit des homosexuels. On est juste avant Stonewall, et pour lui, ce qui a été important, c'est la rencontre de la Beat Generation, enfin Lee Howell de Ginsberg, ça a été révélateur, c'est-à-dire qu'il s'est reconnu comme beaucoup de jeunes gens de sa génération, et contrairement à ce que faisaient les peintres, il a vu que ces poètes-là, voilà, parlaient de d'amour homosexuel.
Il vous a raconté comment ça s'est passé Lebel. Avec Howell? Parce que moi, je ne peux pas vous le raconter, si vous voulez. Si on a le temps. Pour son anniversaire, quelqu'un lui a offert Howell, le petit livre de poche publié par Ferlinghetti, qui s'est d'ailleurs vendu à plusieurs millions d'exemplaires, là aussi, avant tout ça. Et avec un joint pour son anniversaire. Alors il a mis ça dans un... Il était un brave garçon, étudiant à l'université. Il a mis ça dans un tiroir. Et puis un jour, il a rouvert le tiroir. Il a dit, qu'est-ce que c'est que ça? Alors il a fumé le joint. Il a lu le livre avec un an de retard. Et ça lui a fait sauter la tête. Et tout d'un coup, il s'est rendu compte qu'il y avait des poètes comme Ginsberg et bien d'autres, et Burroughs, qui parlaient de tout ça. Et qui n'avaient pas de censure, qui n'avaient pas de surmoi, qui leur interdisaient de parler de leur amour. Et il est allé à une fête près de Columbia, au nord de Manhattan. Et qui est-ce qu'il y avait là? Il y avait Kerouac et Ginsberg. Et il était un jeune homme timide, et il s'est frotté à eux, il s'est approché d'eux, mais il n'a pas osé leur parler, parce qu'il n'avait pas encore cette façon de se présenter entièrement comme il l'était. Mais il raconte cette histoire comme avec une émotion énorme. Il fait... À la suite de la Beat Generation, il est de ceux qui, justement, abolissent le mur de la vie privée. Let it all hang out, c'est-à-dire raconter tout. Il n'y a pas de tabou. Il a voulu abolir les tabous. Alors, Jean-Max, tu disais tout à l'heure que c'est irréversible, que c'est gagné. Je voudrais bien que tu aies raison. Mais malheureusement, dans la conjoncture actuelle, avec ce roquet moussolinien qui est soi-disant président des États-Unis, qui est un ignoble raciste, non seulement anti-gay, anti-noir, mais anti-tout, n'est-ce pas, qui prépare une dictature épouvantable, non seulement dans le domaine culturel, mais dans tous les domaines, c'est loin d'être gagné, hein, parce que le côté macartiste revient en force, et pas seulement aux États-Unis, hein, dans tous les autres pays. Et je crois que malheureusement, ce combat sera réinventé toujours, Jean-Max. Il n'est pas gagné. Il faut toujours recommencer au début et avec la même fougue, le même élan vital.
C'est pour ça qu'on continue à parler de John Giorno et qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Abigail Lang, vous parliez des rencontres qui avaient été décisives pour Giorno, de démons éventuellement. Alors là, on était en train de parler de Ginsberg, on parlera de Burroughs bien sûr. Un tout petit peu avant, donc le premier, en tout cas l'un de ceux qui aura été également décisif, c'est Warhol, vous l'avez dit. C'est presque par là que tout commence.
cement picks, biggest standing cinema. Dress my friends up just for show, see them as they really are. Put the people in my brain, two new pens to have a go. I'd like to be a gallery, put you all inside my show. Andy Warhol looks a scream, had him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all.
71, un petit saut dans le temps. Andy Warhol, David Bowie, un titre que Warhol n'aimait d'ailleurs pas tellement. Warhol, une rencontre décisive en 62, donc Giorno a 25-26 ans. La séquence sera assez brève, hein, puisqu'il va, dit Giorno, le congédier en 64. Mais durant ces quelques deux années, Giorno va littéralement infuser, en tout cas dans l'univers de Warhol, et même dormir devant sa caméra, hein, à partir du mois d'août 63, ce qui donnera le film Sleep, 6 heures, un peu moins, en noir et blanc et en 16 mm, qu'on pourra voir d'ailleurs demain.
Qu'on pourra voir en continu toute la journée au
toute
centre.
La journée au centre
et aussi à Marseille, dans la journée aussi, dans le cadre du festival actoral.
Et donc dans le cadre de cette journée consacrée à John Giorno.
Et on pourra compter le nombre de personnes le lendemain après les 8 heures. Combien il en restera dans la salle? La première fois qu'on l'a montré, c'était à l'American Center dans les années 60. La salle était bourrée. Et quand les lumières se sont rallumées, il y avait 4 personnes.
Endormies.
Mais quelles 4 personnes?
Donc c'était un montage, hein, avec reprise des répétitions, des plans en boucle, hein, et qui va faire de Giorno une sorte de petite vedette quand même de l'underground, avant qu'on en entende véritablement parler, avant qu'il se présente véritablement comme poète, même avant la sortie du film. Au fond, que filme Warhol, Jean-Max Collard, dans ce film qu'on va voir demain donc.
Alors il filme évidemment ce visage de John Giorno en train de dormir, ce visage dormeur. Mais au fond, je pense que c'est moins ce qu'il filme que l'expérience de cinéma qu'il propose, qui déborde en quelque sorte les capacités, les conventions de la séance, qui interroge le rapport du spectateur à son cinéma. Et moi, qui vois beaucoup d'expositions d'art contemporain, je me dis toujours que moi, j'aime pas toujours quand le film est seul, quand il est montré. J'aime quand le film génère son espace ou interroge son espace. Et je me dis souvent, au cinéma, eh ben, ça n'arrive pas non plus si souvent que ça. Et Warhol, le film Sleep de Warhol, avec sa durée, où on peut aussi parler du film Empire, bon, ce sont des films qui, effectivement, sont des défis lancés au cinéma lui-même, à sa capacité, à la capacité du spectateur. C'est-à-dire que la salle devient un lieu de vie, où on entre, où on sort, on revient, on s'endort. Et donc, au fond, il y a ce rapport aussi de réversibilité. Est-ce qu'on n'est pas peut-être face au cinéma comme des spectateurs dormants? Le cinéma, c'est aussi un médium, c'est le médium onirique. On a l'impression parfois que quand on rêve, c'est de manière cinématographique. Et à un moment donné, on se demande, voilà, si on n'est pas en train de partager le même rêve avec le sleeper de Warhol. Moi, je trouve que c'est un grand film sur l'hypnose, au fond.
Il ne faut pas oublier qu'il était complètement à poil dans le lit, ce qui ne gâte rien. Mais là aussi, et encore, on revient vers le grand classicisme grec. Parce que les fameuses pièces d'Eschyle et d'Euripide duraient 3 jours et 3 nuits, hein, dans les amphithéâtres grecs, à Épidaure et ailleurs. C'était pas 1h30, vite fait, bien fait, allez, on rentre à la maison, par le dernier métro. Ça durait 3 jours et 3 nuits. Et c'est une expérience sensorielle, et pas seulement intellectuelle. Et John a parfaitement compris ça, et a transformé la durée, n'est-ce pas, l'idée du temps qui passe. Et qui est vécu par les spectateurs comme par l'émetteur. C'est essentiel.
Et puis, au fond, ça marque aussi peut-être une autre chose, c'est la rencontre entre, la rencontre très affirmée, je veux dire, mais ça passe aussi par Rochemer, entre vraiment le pop art et John Jarno. C'est-à-dire qu'au fond, c'est quand même peut-être le poète du pop art d'une certaine manière. C'est-à-dire celui qui va sortir la poésie effectivement de son cercle, qui va avec les poèmes paintings hyper colorés donner voilà d'autres formes à la poésie, puis qui va aller la distribuer en roller skate dans les rues de New York, aller diffuser à la manière dont on diffusait à l'époque des tracts publicitaires. Donc il y a une manière très pop en quelque sorte de faire de la poésie, et là il y a une rencontre qui se joue et qui manifeste la dimension pop du travail de John Jarno à ce moment-là.
Car il était plasticien aussi,
bien sûr.
Bien sûr, dire, hein. Bien sûr. Et alors après tout, Jarno raconte aussi qu'en ce temps-là, il aimait dormir, hein, et que tout ce qui faisait partie du temps de veille était atroce pour lui. Alors c'est aussi la naissance du corps de Jarno à l'image, ou en tout cas comme image. Ce corps de Jarno qui va devenir aussi un instrument, un support, un motif. Alors il y a la voix, bien sûr, qu'on va finir par entendre, sur scène ou enregistrée, mais il y a aussi le corps de scène, hein, le corps de Jarno, c'est un corps qui interprète. Blaine, dans le film là, dont on a entendu un extrait tout à l'heure, raconte d'ailleurs comment il est impressionné toujours par Jarno, qui était capable de dire de mémoire des poèmes fleuves de 45 minutes, une heure, sans se tromper, un peu à la manière de quelques poètes russes, hein, c'est ce qu'explique Blaine. Comment ce corps-là trouve son langage, Abigail Lang, celui de Jarno? Qu'est-ce que dit le corps et la voix, qui est une voix particulière aussi, très douce, ce corps qui danse sur place et cette voix sur scène, hein. Comment le décrire? Il ne l'a pas trouvé tout de suite, en fait. Ses premiers poèmes, ce n'est pas lui qui les lit. Il y a un premier poème qui est lu, qui est envoyé à la Biennale de Paris en 65, grâce à Aitzik. C'est Geising qui lit. Le deuxième poème important, c'est celui qu'on a entendu, Pornographic Poem. Là, il est compositeur, orchestrateur. Il enregistre ses amis, mais il ne lit pas. En fait, il va domestiquer sa voix, apprendre progressivement à devenir le grand performeur qu'on connaît. Ses premières performances, il dit qu'il est terrifié, c'est vers 68, et ce sont plutôt des environnements, et ça aussi il le doit en partie à Warhol, des environnements sensoriels électroniques de poésie. Donc il y a sa voix, mais il y a aussi les distorsions de Robert Moog, de Bob Moog, le synthétiseur qu'il utilise. Donc voilà, sa voix est extrêmement modifiée, des images, des pulvérisations d'aérosols, des distributions de substances en tout genre. Donc voilà, c'est un environnement psychédélique, et sa voix, en fait, elle est lointaine, d'une certaine manière, le journal qu'on connaît, que vous avez décrit, il émerge au fur et à mesure. Celui qui ne tient plus ses pages, parce que jusqu'en, dans les années 70 encore, il a ses pages en main, il lit des feuilles, et puis il crée ce groupe qui s'appelle le John Jarno Band. Donc il est accompagné de musiciens punk, no wave. Et c'est là quand on a un groupe punk, il n'est pas question d'avoir des feuilles à la main. Donc c'est là qu'il se met à apprendre par cœur. Et effectivement, il découvre que quand on n'a plus les feuilles à la main, bah, tout d'un coup, il se crée des mélopées, des musiques, des harmonies avec la voix. Et donc c'est quelque chose qu'il travaille beaucoup. Ça, c'est Aitzik qui le raconte dans un texte sur Jarno, qu'il préparait beaucoup par la méditation, par la répétition, le texte avant de lire. Et oui, c'est ce qui a fait ce qui en a fait le grand performeur qu'on a vu très souvent effectivement à Paris, à Beaubourg, à Polyphonix.
Alors il y a donc, pour bien comprendre, il y a donc cette marmite pop d'un côté, hein, dans laquelle il va baigner pour commencer, et puis le creuset beat de l'autre. Alors c'est presque simultané, pas tout à fait, mais disons que sa rencontre avec les poètes beat va venir, enfin lui il a un peu du mal avec ce terme, mais en tout cas la rencontre avec les poètes beat va se faire dans la foulée. Warhol a 15 ans de moins que Burroughs, à peu près, mais à peu près le même âge que Ginsberg. Et pourtant, ces deux milieux-là, new-yorkais, parfois même voisins, ne se disent rien ou pas grand-chose. C'est assez curieux, quand on entend Jarno en parler, de se dire qu'au fond, c'était deux univers qui naviguaient un peu l'un sans l'autre. Qu'est-ce qui résisterait à cette rencontre-là?
Il y avait surtout des jalousies personnelles. se partageaient des diamants et se jalousaient et se tiraient dans les pattes, ils se mettaient les bâtons dans les roues, comme tous les êtres humains du monde, vous savez. Et il y avait des jalousies entre Ginsberg et Geisen, dont vous parliez tout à l'heure. Ça s'est passé au Beat Hotel à Paris dans les années 50. Qui va traduire les scrapbooks de Burroughs en une forme publiable? Alors, Geisen disait que c'était lui, il vivait avec Burroughs à l'époque, et Ginsberg disait non, c'est moi, ils se sont bagarrés. Pas physiquement, mais intellectuellement, ils se sont bagarrés. Et Giorno est arrivé après, et ils n'étaient pas d'accord pour que le petit Genot rentre dans le cercle infernal, et qui avait beaucoup de talent et beaucoup de voix, beaucoup de charisme, et finalement, il a inventé son propre espace social, et il a inventé quelque chose que les autres n'avaient pas fait, c'est l'autogestion du verbe poétique. C'est-à-dire, non seulement il produisait du verbe poétique, mais il autogérait la diffusion et la production des disques, des vidéos, des soirées, des concerts, il faisait tout, en quelque sorte. C'est Journal Poetry Systems, c'est ça. C'est l'autogestion par les producteurs et productrices eux-mêmes, elles-mêmes, de l'ensemble des relations sociales que le poème propose au public. Vous voyez ?
Qu'est-ce qu'il trouve, Giorno, finalement, chez ces poètes-là ? Qu'est-ce qu'il va trouver chez Burroughs, chez Ginsberg ? C'est quoi ? C'est l'invention de techniques qu'il va trouver chez eux ?
Le cut-up, vous voulez dire. Finalement, le high-tech de Giorno, il se l'est inventé lui-même. Et il est allé se faire expliquer comment marche un magnétophone, comment plusieurs pistes de même magnétophone peuvent se superposer. Comment on peut utiliser la pédale pour changer la voix, pour changer le timbre, pour changer tout. Il a utilisé les techniques des musiciens en poésie, et voilà. Il a fait ça mieux que les autres. Et il a diffusé tout ça sur ses disques, et par le téléphone et par tous les moyens possibles et imaginables.
Vous écoutez France Culture, la compagnie des poètes, par Manu Farid.
Alors, retour à Giorno et au poète beat, ou à la Beat Generation. Giorno va trouver, au fond, malgré tout aussi des techniques chez eux, mais on va arriver comme ça progressivement aux années 70. Il va y avoir aussi ce lien très fort qui va se faire avec la scène française, un lien particulier, en tout cas des allers-retours avec la scène française, avec ce qu'on va appeler la poésie sonore. Alors il y a la poésie sonore, la poésie action, la poésie directe, la poésie en chair et en os, enfin, appelez-la comme vous voulez, ou la poésie debout, qui va se développer en particulier autour de Bernard Haitzig. Par quel bout est-ce qu'il faudrait prendre cette histoire-là, qui, alors je ne sais pas si elle est déjà tout à fait écrite, cette histoire, elle est un peu difficile peut-être à peigner, cette histoire de la poésie sonore. Est-ce qu'il faudrait la prendre, Abigail Lang ou Jean-Jacques Lebel, en partant des États-Unis pour aller vers la scène française de la poésie sonore? Est-ce qu'il faudrait commencer par partir de Dada, éventuellement d'Artaud, voilà, de Dada, Artaud, et avec éventuellement un passage par les États-Unis et puis un retour à Haitzig ou Haitzig aux États-Unis? Comment, par quel bout on l'attrape, cette histoire?
En fait, elle naît avec la possibilité de l'enregistrement. Donc, effectivement, elle commence en même temps avec la poésie sonore en France, avec Cage qui fait des manipulations des cassettes aux États-Unis, avec, effectivement, après, avec Burroughs et Geisen qui inventent le cut-up, et ces milieux vont se croiser, notamment au sein de Téléphonix, oui.
Et d'une certaine façon, ça commence ici, dans la salle où nous sommes, à la maison de la radio. Il ne faut pas oublier qu'en 1948, l'ORTF, ça s'appelait comme ça à l'époque, a commandé à Antonin Artaud une pièce radiophonique pour en finir avec le jugement de Dieu, avec un D minuscule, pas majuscule, qui est un chef-d'œuvre absolu de poésie sonore où Artaud invente des langages et joue de la musique est épaulé par Paul Thévenin, par Maria Cazares et Roger Blin, et c'est un des grands chefs-d'œuvre de la poésie sonore du XXe siècle. Ça s'est passé dans cette maison de la radio. Ça a été ensuite interdit. Hein. Bon, comme par hasard, en France, on interdit toujours ce qui est le meilleur. Et voilà, c'est devenu un mythe, et c'est une force... subversive qui n'a pas dit son dernier mot, loin de là. Et si on discutait à l'époque, et on continue de discuter avec les poètes américains, mais pas seulement américains, avec les Japonais, avec les Africains, avec tout le monde, tous ces gens-là ont en commun Antonin Artaud, l'inventeur de la langue artaudienne, des langues artaudiennes. Et alors, évidemment... Le théâtre et son double a été traduit par M.C. Richards et John Cage, justement, et les autres en ont pris connaissance dans les années 54-55. Est-ce qu'on peut parler de filiation? J'en sais rien, mais en tout cas, ils avaient aussi en commun Dada et les futuristes. Et voilà, à mon avis, ça s'est passé comme ça. Et tous étaient très cultivés, connaissaient bien tout ça, pas seulement les musiciens comme Cage et les autres, mais Ginsberg connaissait très bien, et Kerouac, faut pas oublier qu'il a écrit le premier jet de Sur la route en français, faut pas oublier ça, il était québécois, canadien, français, et donc il n'y avait pas de frontières, et il faut pas qu'il y en ait.
On écoute John Giorno.
Thanks for nothing on my 70th birthday. I want to give my thanks to everyone for everything. And as a token of my appreciation, I want to offer back to you all my good and bad habits as magnificent, priceless jewels, wish-fulfilling gems satisfying your every need and want. Thank you, thank you, thank you. Thanks. May every drug I ever took come back and get you high.
La voix de Giorno captée en live au Canada en 2011. Thanks for Nothing, un poème écrit pour son 70e anniversaire. Alors là, c'était pour son 75e, ce qu'on a entendu, dans lequel on peut l'entendre dire « Je veux remercier tout le monde pour tout et en gage de ma gratitude. Je veux vous offrir en retour toutes mes bonnes et mauvaises habitudes. Un peu plus loin, que toutes les drogues que j'ai prises puissent revenir et vous défoncer. Que chaque verre de vin et de vodka que j'ai bu puisse revenir pour que vous vous sentiez bien, pour apaiser vos terminaisons nerveuses, pour permettre à la clarté naturelle de votre esprit de s'émanciper. Et encore plus loin, merci de tout prendre à votre profit sans rien donner en retour. Vous n'avez jamais fait que servir vos intérêts. Merci d'exploiter mon ego énorme et de faire de moi une vedette pour votre esprit. » Alors je pourrais continuer encore. Je ne sais pas d'ailleurs ce que ça veut dire que de traduire Giorno. Je ne sais pas s'il faut le traduire, Jean-Jacques Lebel.
Non, on peut retranscrire, on peut trouver des correspondances, mais il utilise le slang très souvent, n'est-ce pas, le langage des rues. Traduire, je ne sais pas, on s'y est tous attelés à un moment donné. Le mieux, c'est de, si vous voulez lire Nietzsche, c'est quand même d'apprendre l'allemand, hein. Eh bien, pour la poésie en anglais ou en chinois, c'est pareil. D'ailleurs, Michel Métaille, qui est une grande linguiste, a appris le chinois pour pouvoir lire l'hypo dans le texte. On a du pain sur la planche.
Si l'accomplissement, comme le suggérait Julien Blaine en tout début d'émission, passe par le corps ou par l'addiction, si au fond c'est comme ça qu'on peut terminer le poème, qu'est-ce que c'est que le poème écrit pour Giorno? Parce que après tout, là, je viens d'en lire un petit bout. Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Abigail Lang.
C'est un des médiums de diffusion de la poésie parmi d'autres, je dirais. Ses premiers livres sont souvent faits en collaboration avec des artistes, sont très très beaux. C'est une forme d'expression parmi d'autres. Il n'y a pas d'animosité à l'égard du livre chez Giorno. Enfin voilà, c'est il aime ses livres.
D'autant que John Giorno reprenait dans ses propres poèmes, il faisait du cut à l'intérieur de ses propres poèmes pour faire ses poèmes paintings, donc qui étaient ses tableaux qu'il a exposés dans de nombreux endroits où on a comme ça des haïkus un peu provocants, life is a killer, voilà, la vie est une tueuse ou un tueur, on ne sait pas comment faut le dire, et donc il reprenait des morceaux de ses propres poèmes pour leur donner justement une autre forme, une autre circulation, et à ce moment-là ça devenait des éclats visuels de poésie. Donc effectivement c'est une matière qui peut être à la fois ce flot très continu, c'est une matière dans laquelle il va pouvoir couper pour faire autre chose, et puis c'est aussi effectivement un support pour une manière de faire vivre la poésie sur scène, de l'accomplir en quelque sorte.
La poésie visuelle, en quelque sorte.
Poésie visuelle, poésie sonore, évidemment.
D'ailleurs, depuis William Blake et d'autres, beaucoup d'écrivains sont en même temps des plasticiens. Hein. Encore là, une fois, il n'y a pas de frontières.
Tout à fait. Bien d'accord.
Alors, ce qu'on a entendu là, c'est donc une reprise d'un poème qu'il avait écrit pour son 70e anniversaire. Donc là, il en avait 75. Avec le temps, en tout cas, les dernières années, on a vu Giorno dire ses poèmes de façon exclusive, c'est-à-dire lui-même, il disait qu'il avait beaucoup de mal avec l'idée que quelqu'un d'autre que lui puisse dire ses propres poèmes, donc qui était très fortement lié à ce corps dont on parlait tout à l'heure, donc ce corps qui va un peu stabiliser sa manière de faire dans les 20 dernières années, ce corps qui danse un petit peu. Quelle est la part de séduction dans la façon que Giorno a de dire ou de produire ses poèmes? Je pense à ça parce que je pense par exemple à quelqu'un comme Gerasim Luca qui s'est produit aussi sur scène, et il y avait aussi cette dimension là qui était une dimension vraiment de séduction du public.
Immense, hein. Oui, c'est je pense à Henri Chopin qui explique que il avait refusé de publier Giorno sur les disques dans la série Où, malgré les l'insistance de Heitzig. Et en fait, c'est quand il voit Giorno la première fois en 76 qu'il est absolument conquis. Il parle effectivement de ce corps qui danse. Enfin, il dit que Giorno fait danser le mot. Enfin, il y a quelque chose qui se passe, vraiment une fusion entre une langue, une voix et un corps, effectivement, une façon de porter la parole qui est magnétique, quoi, dit Chopin, oui.
Et d'incarner Jean-Jacques l'action, Lebel. La poésie action, le corps du poète ou de la poétesse intègre et projette physiquement le poème dans l'espace. Et comment vous dire, il y a une différence quand même très nette entre la poésie action et la poésie imprimée. C'est cette dimension physique. N'est-ce pas? C'est cette expérience sensorielle. Et John dansait sur place devant le micro en écoutant sa propre voix enregistrée et disait par-dessus plusieurs couches de paroles une autre couche supplémentaire. Et il disait toujours qu'à la fin de la soirée, parce qu'il fallait s'arrêter à un moment donné, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais enfin parce qu'on ferme les lumières à une heure dite, et il était tellement plein d'énergie qu'il voulait continuer. Et c'est quelque chose que les gens qui font de la musique de jazz connaissent très bien. C'est qu'après le concert, ils ont envie de continuer. Je travaille en ce moment sur Thelonious Monk. Thelonious Monk disait qu'après le concert, c'est à ce moment-là qu'on commence vraiment à inventer, à réinventer ce qu'on fait. Donc, la mise en train de John dans sa danse physique n'avait pas de fin immédiate dans la soirée.
La poêle a fait moins la vie limite, c'était mon maman. Ce mois-là s'en passait, quasi j'ai gagné comme là.
The death of William Burroughs. William died on August 2nd, 1997, Saturday at 6:30 in the afternoon, from complications from a massive heart attack he had had the day before.
Une composition signée Jaco Marron, DJ installé à Saint-Denis de la Réunion. Et ce qu'on entend là, mix musique traditionnelle de la Réunion, électro bien sûr, et puis la voix de Giorno disant son poème sur la mort de WB, hein, comprendre William Burroughs. Un choix vôtre, Jean-Max Collard. On entendra d'ailleurs demain dans le cadre de la journée consacrée à John Giorno une nouvelle composition de Jaco Marron. Peut-être juste un dernier mot pour terminer. Qu'est-ce qu'il resterait de Giorno aujourd'hui? Giorno, je ne sais même pas si on l'a dit d'ailleurs, disparu donc l'année dernière, en octobre 2019.
Dans son sommeil.
Dans son sommeil.
Pas filmé.
Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Qu'est-ce qui resterait de l'héritage de Giorno? Quelle est sa place?
Moi, je crois ici, que.
Et là-bas, aux États-Unis.
Si on fait cet hommage, et si on fait demain ce John Giorno Poetry Day, qui a rencontré tout de suite énormément d'échos, qu'on partage, parce que c'est un événement qu'on partage, qu'on fait au Centre Pompidou, mais qu'on partage avec beaucoup d'autres lieux, à Bordeaux, à Marseille, à Genève toute la journée.
À Bruxelles.
À Bruxelles, à New York, à Berlin. On a comme ça créé une sorte de journée un peu internationale aussi au-delà de Giorno pour la poésie, où Giorno devient aussi le passeur, c'est pas seulement le sujet de la journée de demain, c'est au fond un passeur, et notamment auprès des jeunes générations. Je crois que dans ses mémoires, John Giorno dit son admiration pour Dylan Thomas et il dit « he was poetry ». Il était la poésie. Pour moi, je pense que d'une certaine manière, John Giorno was poetry, enfin, his poetry. C'est-à-dire, il représente, et je pense notamment pour les nouvelles générations et celles qui, à Paris, ont vu la formidable exposition I Love John Giorno qu'on avait pu voir au Palais de Tokyo.
Hugo Rondinone.
Il incarne justement cette manière très ouverte, très décomplexée, très libre de faire de la poésie, d'assumer son moi, ses mauvaises habitudes, d'assumer pleinement ses caractères et d'être comme ça dans une attitude où la poésie circule de manière très ouverte, très libre, très souple, très smart aussi. Et je pense que là, c'est un très bel exemple de ce que peut être aujourd'hui la poésie contemporaine.
Abigail Lang, vous qui regardez plutôt aussi du côté de la scène américaine, est-ce que la place de Giorno existe véritablement aux États-Unis? Parce que c'est vrai qu'ici, on en parle beaucoup.
Alors, comme Burroughs et aussi comme Edgar Poe, il a peut-être mieux été reçu. Il est plus considéré peut-être en France. Enfin, en tout cas, comme un écrivain, comme un grand poète, oui. Il avait conscience de ça pour Burroughs, c'est pour ça qu'il crée le Nova Convention, enfin il organise le Nova Convention en 78 pour Burroughs, justement pour créer une réception vraiment intellectuelle pour Burroughs aux États-Unis. Mais je crois que même aujourd'hui, probablement Burroughs aussi est peut-être plus reconnu en France qu'aux États-Unis. Mais je pense que Giorno, son œuvre, a pas dit son dernier mot et que c'est un grand pionnier.
Alors, il faudrait peut-être ajouter aussi que cette journée John Giorno est largement orchestrée par un James Chaton et Jean-Michel Hospitalier
ensemble.
Aussi. Voilà, non, c'est simplement ce qu'on n'a pas cité, dire, comme on parlait de l'héritage.
C'est pas un hasard par rapport à ce que dit Amiga. Si l'épicentre du John Giorno Poetry Day, c'est effectivement la France, ce sont les relations aussi avec Michel Collet à Besançon, c'est La Réunion, on l'a entendu, c'est Bordeaux, c'est Genève, c'est Marseille avec Julien Blaine, c'est Jean-Jacques Lebel ici présent. C'est pas un hasard si l'épicentre est là, parce qu'effectivement, un des grands lieux de surcroît de reconnaissance, c'est pas la superstar éphémère de Warhol, c'est effectivement cette reconnaissance profondément poétique de jeunes qui s'est faite notamment en France.
Abigail Lang, Jean-Jacques Lebel, Jean-Max Collard, merci à tous les trois. Le festival Extra court jusqu'au 27 septembre au Centre Georges Pompidou et le John Giorno Poetry Day, c'est en France et ailleurs. Demain, samedi, j'en profite pour faire un petit point matrimoine littéraire pour le week-end suivant avec les lettres à une jeune poétesse adressées par Nathalie Quintane, Liliane Giraudon, Ryoko Sekiguchi ou Chloé Delhomme, toujours dans le cadre du festival Extra, avec le concours du collectif Les Parleuses. Quant à la Compagnie des Poètes, c'est vendredi prochain, même heure, même endroit. Aujourd'hui à la technique, Julien Calvas, à la préparation Thierry Beauchamp et à la réalisation François Connac. Vous trouverez toutes les actualités des invités du jour sur le site de l'émission, à réécouter, podcaster ou partager sur franceculture.fr. Bon après-midi à toutes et à tous.